Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 892 d'Invino. Depuis la création de l'émission en 2004, vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Perpignan par exemple sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le portrait d'un vigneron israélien extraordinaire, Eli Benzaken, les Français et le vin au restaurant, on en parlera tout à l'heure, le muscat de Baume de Venise, une véritable douceur, et puis le Vino Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, elles sont belles comme des cœurs, Hélène Pio et Laure Gasparotto. Bonjour Hélène, bonjour Laure.
Bonjour.
Ainsi qu'ils sont beaux, alors ils sont beaux comme du camion, Philippe Orbrac et David Cobol. Bonjour messieurs, bonjour messieurs.
Bonjour le
voilà, il y a un camion qui arrive là. Pour commencer cette émission, Vino Sud Radio retrouve Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, avec une invitée, Anne-Laure Boras, vigneronne, au domaine Le Nouveau Monde. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Alors, ce nom-là, Le Nouveau Monde, là, vous êtes basé où là? Vous êtes en Chine? Vous êtes à Bali? Vous êtes où alors?
Ah, absolument pas, non. Le nom date d'il y a un peu plus d'un siècle et nous situons au sud-ouest de l'Hérault, à l'embouchure de l'Aude, donc à la frontière entre l'Aude et l'Hérault, sur une petite commune qui s'appelle Vendre. Donc on est vraiment, on a une forte proximité par rapport à la mer Méditerranée. Mais non, ce nom ne vient pas du tout de notre...
Hélène Pio.
C'est ça, vous êtes à 15 km au sud-ouest de Béziers, pour situer un petit peu.
Tout à fait.
Voilà, avec effectivement les vignes qui regardent la mer toute la journée.
Oui.
Et puis, puisqu'on est en tout début d'année, je voudrais commencer par vous souhaiter une excellente année,
oui.
Anne-Laure.
Tout de vœux.
Hein. Oui, meilleurs vœux également à vous aussi.
Et oui, parce que cette année, ça va être une grande année pour vous. C'est la fin de la conversion
oui,
bio,
ça y est. Ça y est. Donc, nous arrivons au bout de la quatrième année. Donc, 2020 va être notre premier millésime véritablement labellisé AB. Donc, je vous avoue que 4 ans, c'est long.
Parce que
dès la première année, on débute entièrement en agriculture biologique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La conversion, ce n'est pas petit à petit, c'est de suite du bio, aussi bien à la vigne qu'à la cave. Donc, oui, effectivement, 2020, grande année pour nous, oui.
Voilà, vous allez pouvoir effectivement toucher le fruit de vos efforts.
Oui.
Alors, puisqu'on parle de fruits, tiens, donc vous avez une vingtaine d'hectares.
C'est ça.
Et alors, c'est une propriété, vous n'êtes pas la première à vous en occuper, vous êtes la troisième génération.
Oui, nous sommes la troisième génération. Donc, avec mon époux, nous avons repris de mes parents en 2003. Donc mes parents avaient déjà fait un travail qualitatif dès la fin des années 70, mais à l'époque ils n'avaient pas d'AOC Languedoc encore. L'AOC Languedoc date du milieu des années 80 et on travaille des vignes en AOC Languedoc depuis 92.
Et puis alors surtout, vous êtes une génération qui ne fait, si je peux dire, que ça, alors que votre papa, j'ai lu que c'était une histoire un peu étonnante, ses parents ne voulaient pas qu'il soit vigneron, c'était pas un métier sérieux, alors ils l'ont poussé à être pharmacien.
C'est ça.
C'est pas mal aussi.
Oui.
C'est moins bien, mais c'est pas mal.
Bah oui, il a très rapidement, enfin au bout de quelques années, il a très rapidement abandonné la pharmacie pour reprendre le domaine qui appartenait à ses beaux-parents. Donc,
il y a de la chimie dans le vin aussi, donc c'est pas perdu quand même. Hein.
C'est vrai, mais
oui.
Enfin,
oui.
La chimie du vin me semble plus intéressante que le Lexomil et je ne sais pas quoi
sûr.
D'autre.
Ça c'est de la véritable alchimie, oui. Bravo.
Exactement. Même si le vin peut aider à dormir parfois.
C'est vrai. Consommer avec modération, tout va bien.
Bien sûr, mais oui.
Voilà. Parlons un peu de vos cépages. Syrah, Grenache, Mourvèdre.
C'est ça. Alors, Syrah, Grenache, Mourvèdre, avec pas mal de Mourvèdre, parce que comme vous le disiez, on est très proche de la mer, donc le Mourvèdre adore voir la mer. Donc, on a un terroir assez exceptionnel de Gravilla-Franchien, à 6 km de la mer, qui est très très propice pour le Mourvèdre et on fait des Mourvèdres qui sont assez magnifiques. Et la Syrah s'exprime également très bien et arrive à garder une fraîcheur qui est assez étonnante par rapport à cette proximité de la mer.
Vous avez un 100% Syrah d'ailleurs, hein ?
On a un 100% Syrah, mais en IGP, et on a un 80% Syrah en AOC, oui.
C'est ça. Vous faites effectivement en tout une dizaine de cuvées. Neuf,
oui.
C'est ça? 9, 10?
Oui, oui, oui.
Essentiellement des rouges, et puis deux blancs et un rosé. Et alors parmi vos rouges, il y en a un, j'adore le nom, c'est les Petits Mondes. Vous expliquez que c'est un vin glouglou. Alors racontez-nous.
Un vin glouglou, c'est beau ça.
Racontez-nous le vin glouglou des Petits Mondes.
Oui, alors j'en suis assez fière parce qu'en fait, on adore le Mourvèdre. Alors le Mourvèdre, c'est connu pour être assez costaud, assez structuré, avec des tanins un petit peu durs. Et nous, on a un terroir justement qui nous permet d'avoir des tanins très ronds et très faciles dès le départ. Et en fait, je voulais faire une cuvée qui était facile à boire, mais en même temps qui avait du caractère. Donc on a fait un 100% Mourvèdre, mais travaillé sur le fruit, sur la rondeur. Et qui a quand même du caractère. Donc c'est quelque chose que nous on propose à boire un petit peu frais en été ou pas en été, mais plutôt sur des apéros, des tapas, des choses comme ça. Et c'est très très sympa.
Philippe Aubrac,
j'aime beaucoup le Mourvèdre quand il est vinifié comme ça aussi parce qu'il est effectivement plus accessible. Il n'a pas besoin d'être vieilli non plus trop longtemps et ça donne un vin avec beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère dont on se souvient. Donc c'est pas mal du tout.
Laure, vous aimez le Mourvèdre ou pas? C'est un cépage qui vous sied?
Ah oui, j'adore.
Vous adorez?
Vraiment,
j'adore. C'est pas Hélène Pio, ni l'hôtesse de l'air, mais c'est pas mal quand même.
Par exemple, vous savez que j'ai encore mon cœur en terrasse du Larzac.
Bien sûr,
même
bien
si
sûr.
J'ai vendu mes vignes.
Mais, oui.
Mais à chaque fois que dans les terrasses du Larzac, dans l'assemblage, il y a du Mourvèdre, ça
on est dans la même région, même si les terroirs sont différents. David Cabot, le Mourvèdre, et puis Alors, vous l'aimez aussi?
Ça donne.
Ah bah oui, bien sûr.
Ça donne beaucoup de punch.
Je ne sais faire que ce que j'aime. Je suis désolée.
Hélène,
vous avez aussi une cuvée, enfin parmi toutes vos cuvées, vous en avez une de blanc qui est particulièrement originale, métisse de Chardonnay et de Listan, le Chazan.
Oui, le Chazan. Alors ça, c'est une vigne qui a été plantée par papa il y a maintenant une quarantaine d'années. Et qu'on arrive encore, alors malheureusement, qui est vieillissante et qui, avec les dernières années de sécheresse, souffre beaucoup. Donc, qui donne très, très peu. Là, cette année, on a récolté sur 76 arbres, 9 hectos, donc ça représente rien.
Mais c'est tout petit. Pour terminer, dites-nous, alors, au niveau du bouchage des vins, c'est important pour que, notamment, la longévité.
Oui.
Vous travaillez comment, vous?
Alors, nous, on travaille depuis quelques années maintenant avec des bouchons technologiques avec chez Diam. Ce sont des bouchons qui nous permettent d'avoir une homogénéité gustative idéale. Et une neutralité sensorielle. En fait, malheureusement, sur du liège naturel, on avait des problèmes, alors pas forcément de goût de bouchon, mais de vin qui n'était pas homogène, des cuvées, plusieurs bouteilles qu'on ouvrait et qui n'étaient pas
au top. Maintenant, le problème est résolu. Merci beaucoup, Anne-Laure. On vous souhaite tout le bonheur du monde là pour 2020.
Mais avec grand plaisir.
Chanson chère au cœur de Philippe Aubrac, notamment. Merci également, Hélène Pio. Invino retrouve à présent Laure Gasparotto, journaliste au Monde, pour brosser le portrait d'un monsieur formidable. Quoi. Il n'est pas d'ici. Hein. Il n'est pas très loin quand même, mais il n'est pas d'ici.
Alors aujourd'hui, il est en Haute-Judée. Puisqu'il a créé son domaine il y a 28 ans maintenant, c'est le domaine du Castel. Mais il est né à Alexandrie et son parcours est vraiment très romanesque.
Alors comment il s'appelle ce garçon?
Alors il s'appelle Elie Benzaken. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'il vient d'entrer dans le top 100 du Decanter. Alors il me dit, oui mais tu sais, je suis le centième. Mais malgré tout,
oui.
ce qui est formidable, c'est que ça fait donc 28 ans qu'il a créé ce domaine en Israël.
Je signale qu'il est aussi parmi mes 101 vaincus.
Oui, 101. Il n'est pas 101.
Non, il est avant le 101.
Ah bon, ça va.
Mais voilà, moi je le connais depuis
maintenant.
Il n'y
a pas de classement.
J'ai suivi son parcours depuis une quinzaine d'années. Et je trouve qu'il est incroyable. Parce que donc il est né à Alexandrie, d'origine italienne. Il a émigré ensuite en Suisse, à Genève, où il a travaillé pour l'ONU. Et puis, dans les années 70, avec sa femme, ils ont décidé d'aller vivre en Israël. Et donc, il est parti, avant sa famille, en Israël, chercher du boulot. Et un jour, il envoie un télégramme à sa femme, il dit « Tu peux venir trouver ferme avec poule. » Avec poule.
Ferme avec poule.
Ferme avec poule.
Donc, il appelle sa femme une poule. Ah non, c'est pas ça, d'accord. Oui, d'accord.
Mais donc, il a commencé avec un poulailler. Mmh. Et puis, ils ont monté un restaurant italien à Jérusalem, qu'ils ont eu pendant longtemps, ce qui s'appelait Mamma Mia. Ah oui. Et voilà, et c'est tout ça pour dire que 28 ans plus tard, il a un vin extrêmement connu, internationalement reconnu, et en fait, on est parti d'un poulailler. Moi, j'aime beaucoup ces vins, et
moi aussi.
Pendant longtemps, en fait, ce qui a fait sa réussite, moi, c'est ce que je lui reprochais. C'est-à-dire qu'il aimait tellement les vins de Bordeaux que c'est l'exemple de Bordeaux qu'il a voulu suivre. Donc, il a planté des cépages de Bordeaux, Cabernet Sauvignon.
Le climat est différent, Hélène, le contexte est différent, non ?
Le contexte est différent, mais il a quand même, donc il est en Haute-Judée, 700 mètres d'altitude, il a quand même une certaine fraîcheur dans ses vins, il a su choisir un terroir, et donc il a vraiment suivi à la lettre, presque trop, le modèle bordelais.
Le schéma,
donc élevé pendant 2-3 ans en fût, alors il y a un très très joli élevage. Il a fait venir donc les tonneaux, les cépages de Bordeaux, les tonneaux de Bordeaux, l'œnologue de Bordeaux. Et il y a quelques semaines,
il s'est émancipé
en France, et il m'a fait goûter sa dernière cuvée qu'il appelle Raziel, qui est du coup un nom très local. Très, très local. Et c'est un assemblage de Syrah et Carignan que j'ai trouvé vraiment... plein de fraîcheur.
Ah, on s'éloigne de Bordeaux, là, Syrah Carignan.
Oui, là,
Syrah Carignan. Et en fait, voilà, il fait ses petites cuvées maintenant, un peu. Il s'émancipe. Et je me dis qu'il a fallu tout ce temps pour trouver
sa voix.
Et son fils, aujourd'hui, travaille avec lui, sa fille également. Voilà. Et c'est un des premiers domaines dans ce pays neuf.
Il n'y a que des vins rouges, l'or, sur le domaine ou pas ?
Non, c'est rouge, blanc. Alors en blanc, il fait un chardonnay extraordinaire, le C de Castel, qui, pour beaucoup qui l'ont goûté, est vraiment une référence. Et un rosé aussi très sexy.
Et combien ça coûte une bonne bouteille ? C'est cher ou c'est raisonnable ?
Alors le rosé, c'est 17, entre 17 et 20 euros quand même. Oui,
bon,
ce sont des vins qui sont bien positionnés.
C'est le prix rendu en France.
Voilà, le grand vin rouge, c'est 50 euros.
D'accord.
Et après,
la moitié.
Voilà, Petit Castel.
On est quand même sur des vins haut de gamme.
C'est très jolies bouteilles.
Et vraiment. Vous l'avez rencontré, ce monsieur ?
Elie Benzaken, oui, je veux même faire un livre avec lui.
Ah, c'est formidable, ça c'est. On réagit parce que David, vous l'appréciez aussi. Hein.
Ah, moi, j'apprécie depuis longtemps.
Souvent d'accord avec l'or.
J'ai goûté ces vins il y a très longtemps quand c'était importé par Vins du Monde, je crois, où j'avais fait le premier guide des vins importés en France, le guide des vins d'ailleurs. Et c'est sorti en dégustation à l'aveugle. Et depuis ce jour-là, je le suis de temps en temps. Et je l'ai mis dans le dernier livre, Les 101 vins cultes du monde.
Merci Laure, excellente idée. On va suivre ce monsieur-là qui nous régale, en tout cas vous a régalé. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris avec le Vino Quiz.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau et le Vino Quiz, Hélène.
Vino Quiz, dont le principe est que chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. En ce moment, c'est le livre In Clima Veritas de Youri Le Beau. La question de la semaine dernière était: en quelle année Pascaline Lepelletier a-t-elle remporté le titre de meilleure sommelière de France ? Réponse A en 2015, réponse B en 2018 ou réponse C au XXe siècle en 1992.
Et la réponse, Hélène, est
B, 2018.
2018, cette semaine.
Cette semaine, comment se nomme le domaine d'Anne-Laure Boras ? Réponse A, l'Ancien Monde. Réponse B, le Nouvel Univers. Ou réponse C, le Nouveau Monde ? Pour répondre et gagner le livre In Clima Veritas de Youri Le Beau, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène Piau. Vino sur Radio retrouve David Cobod, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux, pour nous parler des Français, mais version au restaurant avec un petit verre de vin, c'est ça ?
Oui, mon attention a été attirée récemment par un sondage qui a été publié par l'Institut de sondage Opinion Way pour Wine Paris. Vous n'êtes pas sans savoir, Alain Marty, que bientôt il y aura le salon qui combine Vinexpo et Wine Paris à Paris.
C'est une très bonne idée, en tout cas.
Fin février. Donc ce sondage portait sur le comportement des Français au restaurant par rapport au vin. Et j'ai trouvé... Ça a été assez intéressant. Au préalable, je voulais dire que moi, j'ai toujours identifié trois problèmes dans le vin au restaurant en France. C'est d'abord, ça ne va pas faire plaire à Philippe Forbrecht, tant pis, les coefficients pratiqués par les restaurateurs. C'est le problème numéro un. Les vins sont trop chers dans les restaurants en France. Lorsqu'on voyage en Italie, en Espagne,
dans
Portugal,
un certain nombre de restaurants français, en tout cas.
Pas dans tous, je suis d'accord. Mais globalement, trop cher.
Il y a une tendance à la hausse. Quand même,
les coefficients déraisonnables. Deuxième problème... mauvaise formation du personnel. Je ne parle pas dans la restauration très professionnelle, haut de gamme, où il y a des sommeliers comme chez Philippe. Là, il n'y a aucun problème.
Mais en général, vous voulez dire, David?
Globalement, oui. Le niveau de formation est nul. Et ensuite, les conditions de stockage et de service aussi. C'est-à-dire que les vins, on les voit parfois mal stockés, à l'air libre, au chaud, avec des verres ballants. Là, il faut se détourner et aller ailleurs.
Vous faites plein d'amis tous les week-ends, David. Hein, vous
non,
savez
mais
ça.
Globalement, il y a un vrai problème. Alors, quand on se dit le pays du vin, mais quand on voyage en Italie, on est quand même mieux reçu.
Bien sûr.
Pour moins cher et mieux
en
servi.
Angleterre aussi, mais même s'il n'y a pas de
en Angleterre, je ne sais pas. J'y vais plus dans ce pays de malades. C'est un pays de république bananière.
Ah, c'est
devenu.
Quand même génial. Johnson,
Boris, si tu nous entends, salut.
Oui.
Après, la seule différence entre Boris Johnson et Donald Trump, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui
les
a un coiffeur à domicile.
Oui, c'est ça.
Il y en a un qui est jaune et l'autre qui est orange.
Oui. Alors, voyons d'abord cette étude, c'est quand même le sujet du jour, parce que il traite pas tous les sujets que j'ai évoqués, mais il traite beaucoup de sujets et c'est plein de renseignements. Donc, c'est vraiment assez intéressant. On constate que, bon, d'abord, la base, c'est quoi le protocole? C'est 2125 personnes représentatives de la population de différentes régions de France, âgées de 18 ans de plus, c'est le moins qu'on puisse dire, et réalisées en ligne en octobre et novembre de l'année dernière.
Bon, donc ça, c'est sérieux, raison. David.
C'est du sérieux. Alors, globalement, 81%, c'est du déclaratif toujours, hein, des Français déclarent boire du vin devant la bière, 72%, et les spiritueux, 70%. Mais seulement 42% boivent du vin chaque semaine et 15% tous les jours. Je me reconnais dans la catégorie des 42%. Parce que
très
je ne bois pas du vin tous les jours.
C'est donc parfait, David.
Bon, je ne sais pas si c'est parfait, mais c'est comme ça. Alors, parmi ces consommateurs de vin, 96% en consomment au restaurant. C'est très encourageant, Philippe. Hein,
vous dites combien, pourcentage?
Oui. 96%.
C'est énorme.
Hein, c'est beaucoup. Hein. Parmi les 81%, hein, déjà. Ça représente à peu près 80% de la population adulte en données corrigées. Si cette consommation au restaurant s'effectue pour 89% avec le repas, 83% en consomment avant. Donc il y a une tendance de hausse de la consommation du vin à l'apéritif. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Plutôt que boire du whisky ou du pastis, qui quand même assassine le palais avant le repas, boire du vin, un verre de vin avant le repas, c'est une bonne chose. Et ça se confirme dans les tendances.
Ça, c'est une vraie tendance.
Et ça, c'est... Oui, vous le confirmez, oui, Philippe.
Vendez moins de whisky, Philippe, au restaurant.
On n'a jamais beaucoup vendu, mais...
Marquez chez vous, on va d'abord pour le vin.
Oui,
quoi. C'est
mais
vrai
la demande,
que,
en discutant avec mes confrères, elle est vraiment dans cette tendance-là. Quoi.
Alors, satisfaction pour les restaurateurs. 72% de ces consommateurs estiment que le vin au restaurant est de meilleure qualité qu'avant. Alors, on ne dit pas avant quand, hein. C'est ça le problème.
Avant Jésus.
C'est avant la guerre, avant la deuxième guerre, la troisième guerre. On
ne
sait
pas.
Mais bon, voilà. Ça s'est amélioré. Donc, bravo aux restaurateurs. Ils ont amélioré leur choix de vin et leurs critères de sélection. Mais la baisse de la consommation est quand même une réalité, car seulement 64% déclarent boire, ou 64% déclarent boire moins de vin au restaurant qu'il y a quelques années, et le syndrome moins mais meilleur semble opérer pour la moitié des sondés. 34% disent avoir réduit leur consommation pour baisser la consommation d'alcool.
Ah, quand même, oui.
C'est plutôt une bonne chose, mais ça pose un problème pour les restaurateurs. Donc il faut trouver d'autres solutions. Parmi les solutions qui sortent de cette étude, c'est l'augmentation de la consommation au verre. Et ça, je pense que tous les bons restaurants, les restaurants qui se respectent, on a une augmentation de l'offre de vin au verre. Comment fait-on son choix au restaurant? Eh bien, il n'y a pas de grande surprise. Pour 88%, c'est le prix.
Et oui, c'est le prix. Quoi.
C'est le prix. Oui. Ce qui fait que dans 56% des sondés qui vont dans les grands restaurants, 56% ne consomment pas du vin, parce que c'est trop cher.
Trop cher, quoi. Oui, oui.
Et oui. Et ça, c'est un problème. Alors, deuxième critère de sélection, 79% aiment découvrir de nouveaux vins en restaurant.
Ce qui est plutôt une bonne chose.
Ça, c'est une très bonne chose. C'est l'ouverture à la consommation.
De Laure Gasparotto.
Même si, et là, il y a un petit paradoxe, 83% disent avoir des préférences pour les vins locaux. Alors, les vins locaux à Paris, je ne sais pas ce qu'on boit.
Le vin de Suresnes, mon cher David Cobol, est excellent.
Et bientôt l'IGP Île-de-France.
Exactement.
L'IGP Île-de-France. Des vins locaux dans les grandes villes, je ne sais pas ce qu'on boit. Hein. Bon, en région lyonnaise, on a peut-être le choix. Alors, après, il y a quand même des habitudes qui ont les vins durs. J'étais frappé par ce fait que 6% continue à boire du vin rouge sur le fromage. Alors arrêtez. C'est le vin blanc sur le fromage, s'il vous plaît.
C'est vrai. Ce qui veut dire quand même qu'il y en a 34%, c'est ça?
Ouais, ouais.
Qui boivent du vin blanc.
Ouais, ouais.
Alors qu'avant, c'était quasiment zéro.
C'était zéro. Donc ça augmente.
Ouais,
donc,
c'est
on fera le
chose.
Sondage d'ici 10 ans, on verra.
Allez.
Est-ce qu'il me reste un peu de temps?
Pour la 3000e Invino.
Alors, conclusion et enseignement. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, type de restaurant, etc. Je dis que c'est un sondage vraiment intéressant. J'ai noté que le vin apéritif, les grandes tendances, vin à l'apéritif, vin au verre, et le marketing du bio a un impact. Les gens sont très soucieux de l'origine du vin, de comment le vin a été fait. David. Bio, biodynamie, etc. Je ne vais pas parler des vins nature parce que ça n'existe pas pour moi. Et puis, la consommation raisonnable et la qualité du service et des prescriptions. C'est-à-dire, ils veulent du conseil. Et quand il n'y a pas de conseil, ils ne consomment pas.
Merci David Cobold de la messe édite Invino Sud Radio. Retrouve Philippe Forbrack, meilleur sommelier du monde, pour nous parler du muscat de baume de Venise. C'est savoureux, ça. Hein.
Alors, ce début d'année, j'ai envie de vous ramener...
Avec aussi, modération, mais c'est bon.
Exactement, dans l'émotion que représente pour moi cette appellation, parce que c'est le premier vin que j'ai goûté dans ma vie.
Le premier vin
de... Oui, mon père m'a dit, tiens, on est grimpé sur les fameuses dentelles de Montmirail, qui est quand même un massif montagneux extraordinaire situé au nord de
Et pour vous féliciter, vous avez un petit verre de...
C'est la Madeleine de Forbrack.
Exactement, et donc le soir, au bivouac, comme on dit, on avait goûté ce petit verre de muscat de baume de Venise avec mon frère, et on s'est dit franchement, mais c'est bon le vin.
Ça. Hein, on croque du raisin.
Des souvenirs, on avait senti ou goûté des fonds de verre, de rouge et tout. Que
attention, là, avec modération, Philou. Hein.
Faut là, commencer par un vin.
Un petit verre, effectivement, voilà. Et l'éducation s'est faite comme ça. Et j'ai encore le souvenir vraiment très vivace de ces parfums envoûtants qu'on retrouve dans la plupart des muscats qui sont élaborés à partir du muscat à petits grains, dit muscat d'Alexandrie, et qui ont des parfums qui d'abord rappellent très fortement le raisin. C'est un des seuls cépages dont on va retrouver le goût initial du raisin ensuite dans le vin lui-même. C'est dû à des tioles particuliers qui ne se dégradent pas avec la fermentation. Et comme en plus la fermentation est partielle, puisque c'est un vin doux naturel, c'est-à-dire que le sucre initial a été conservé par l'adjonction d'alcool vinique qui bloque l'action des levures en arrêtant la fermentation.
Et ça, c'est pas une maladie, c'est un souhait. Hein.
Alors c'est un souhait, c'est une technique qui permet effectivement de pouvoir garder du sucre résiduel. Et c'est comme ça qu'on définit les vins doux naturels. Et c'est comme ça qu'on élabore, par exemple, les morilles, mais aussi les autres muscats célèbres comme ceux du Cap Corse, de Rivesaltes, cher à Alain Marty, n'est-ce pas?
Banyuls, exactement, par exemple.
Mais les Banyuls aussi sur les rouges. Mais c'est la même technique également qui permet de fortifier les vins de Porto en rejetant effectivement cette eau de vie particulière. Alors celui-ci est produit donc dans un secteur qui s'appelle Baume de Venise. Le nom Baume de Venise n'a rien à voir avec la ville de Venise et même avec un baume, même s'il peut donner du baume au cœur. Ça vient juste de balme, qui veut dire les grottes. Balme, baume, c'est la même étymologie des baux de Provence, par exemple. Les balmes qu'on peut trouver dans les Alpes, par exemple, c'est la même chose, ce sont les grottes.
Est-ce que si je me badigeonne les lèvres avec du baume de Venise, ça les adoucit? Le côté baume, je sais pas.
Bien entendu. Et non seulement ça les adoucit, mais en plus ça vous fait sourire. Donc en plus, c'est un double effet extraordinaire. Et Venise, pourquoi Venise? Parce que c'est le comté venessin. Donc ça vient de Venessin et non pas de Venise. Le comté venessin qui, à l'époque papale, effectivement, ça existe toujours. C'est un terme qu'on utilise toujours. Et qui englobe effectivement tout ce secteur autour de Vaqueras, de Gigondas.
Ah, la région est belle. Les dentelles de Montmirail ne sont pas loin.
Jusqu'à Vaison-la-Romaine, etc. Voilà. Vaison, Venise, Vénessin, c'est la même étymologie également. Voilà. Et donc, alors ça donne quoi? Ça donne des vins doux qui existent essentiellement en blanc, doré même, parce que c'est souvent assez coloré. Parfois, ça peut être rose, parce que le muscat d'Alexandrie a la même vertu un peu que le Gewürztraminer, par exemple. C'est un cépage blanc, mais qui a tendance à devenir rosé. Et donc, on peut avoir des colorations.
Donc, ça veut dire que le raisin, quand on le regarde, il peut devenir rosé.
Exactement.
Ah bon.
Il peut même devenir certains presque rouge. Et d'ailleurs, il y a Alain Ignace qui produit un muscat de baume de Venise rouge.
Magnifique.
Qui est assez extraordinaire. Alors, il en produit très peu. C'est vendu dans des bouteilles de 50 centilitres. C'est pas complètement donné, même si c'est pas non plus inimaginable en prix, puisque ça coûte, je sais pas, 25 euros la demi-bouteille.
Ah ouais, mais c'est inoubliable.
Mais c'est franchement une expérience tout à fait inoubliable. Une émotion assez.
Et on peut l'associer à quoi, Philippe, comme type de gastronomie, un excellent.
En ce début d'année, on est encore dans la galette des rois.
Ça marche bien, ça.
Oui, ça marche très, très bien. Et globalement, ça va très bien. Alors avec certains fromages, on évoquait les vins blancs avec le fromage. C'est vrai que les muscats blancs,
ça
par exemple,
bien,
avec des pâtes persillées ou des fromages de chèvre un petit peu faits, qui ont besoin de la salinité va être récompensée par la sucrosité. Finalement, les deux cohabitant très bien, ça fait des, ce sont des
Hélène,
accords
avec
parfaits
un
également.
Poulet rôti, ça marche super
ah
bien.
Ah oui, muscat à bonne de Venise avec un poulet rôti.
Ça marche super bien.
Surtout si le si on a la,
surtout
la possibilité,
si le poulet est sympa.
Oui, si le poulet a du caractère, mais surtout si le vin prend un peu d'âge, parce que quand il est très jeune, c'est le fruité remarquable que j'ai décrit tout à l'heure, mais plus les parfums de rose, de litchi, d'abricot, etc. Mais en vieillissant, on va sur les épices, c'est
et
merveilleux
puis les raisins
secs, voir le côté
poivre.
Oh là là, c'est Dionier. Merci beaucoup. Merci Philippe. Nous rêvons grâce à vous. Merci également à vous, Hélène Piau, Laure Gasperotto et David Cobold. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Pour la fin de ce numéro de InVino Sud Radio, pour en savoir plus, sur rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook InVino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle mission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Salut, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.
InVino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.